When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
N'en déplaise à Zlatan Ibrahimovic, le Paris Saint-Germain n'est pas né avec l'arrivée du Qatar en 2011, mais bien en 1970. Un demi-siècle d'histoire avec des titres, des épopées formidables et des grands joueurs qui ont marqué de leur empreinte le club de la capitale et ses supporters. De Susic à Rai, en passant par Zlatan, Lama, Daled, Paoletta ou encore Cavani. Quel est le plus grand, celui qui vous a fait le plus vibrer ? Difficile de se prononcer, me direz-vous, mais nous allons quand même essayer. Je suis Adrien Yo, vous écoutez le podcast Qui c'est le plus fort ? Et nous allons nous interroger aujourd'hui sur le meilleur joueur de l'histoire du PSG. Pour m'accompagner, le journaliste Stéphane Bitton, chroniqueur sur France Bleu Paris, spécialiste du PSG, et deux journalistes de la rédaction d'Eurosport, Enzo Guérini et Clément Lemaître. Salut à tous !
Bonjour Adrien.
Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner, comme ça vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Alors pour commencer, messieurs, quel joueur du PSG avez-vous choisi de défendre ? Stéphane.
Naturellement, ça fait de Suzy.
Clément.
Alors, je vais défendre Rai, l'idole du parc des années 90.
Et Enzo ?
Le controversé Zlatan Ibrahimovic.
Bien amené. On va commencer par toi, Stéphane, notre invité du jour. Tu as choisi de défendre Savet Susic, qui a effectué 9 saisons au PSG, de 82 à 91. C'est un joueur qui t'a marqué ?
Oui, alors j'ai le privilège de l'âge, j'ai la chance de suivre le Paris Saint-Germain depuis 1970, donc d'avoir vu absolument tous les joueurs, tous ceux dont on va parler tout à l'heure. Et j'ai choisi Safet Susic parce que je pense sincèrement qu'il est le meilleur joueur, le joueur le plus influent. Alors, c'est toujours difficile à travers le temps de qualifier un joueur de meilleur joueur parce qu'évidemment, Rai avait énormément de talent, Mustapha Daleb juste avant Susic, et puis techniquement Ronaldinho est peut-être ce qui s'est fait de mieux, et puis c'est vrai que celui qui a permis de franchir un cap, c'est Zlatan. Donc tous ces joueurs ont marqué l'histoire, mais celui qui a été le plus influent dans l'histoire du PSG, dans les matchs qu'il a disputés, il était le baromètre pendant 9 ans du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire que il suffisait, quand on connaissait bien le PSG comme moi et qu'on était abonné en Auteuil Rouge, et il suffisait de le regarder pendant un quart d'heure et on connaissait déjà l'issue, le score, le résultat qu'allait avoir le Paris Saint-Germain. Il était en forme, on savait que Paris gagnerait. Il était un peu moins bien, il y aurait du match nul. Il était dans un 60, et il n'y en a pas eu beaucoup. C'était la défaite. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui a influencé le jeu du Paris Saint-Germain. C'est celui qui a permis au Paris Saint-Germain de remporter son premier titre de champion de France, il en fallait bien. C'est vrai que ça arrive à l'appel et quasiment avec 7 titres en 9 ans, on ne fait plus vraiment attention. Mais 1985-86, Safet Susic est à la baguette. Il vient déjà de remporter une Coupe de France en 83 en étant exceptionnel pendant cette finale face à Nantes, qui est probablement l'une des plus belles finales de l'histoire de la Coupe de France. Il a marqué l'histoire et tous ceux qui ont eu la chance comme moi de le voir évoluer savent qu'il était exceptionnel techniquement. Et je me rappelle même qu'avec d'autres supporters, notre question c'était, puisque l'homme qui rayonnait à l'époque sur le football mondial s'appelait Diego Maradona, et on disait toujours, on rêverait dans les bons soirs de Susic de les mettre tous les deux sur un mètre carré et de les voir se dribbler pour voir ce que ça donnerait. Voilà, c'était pour situer le niveau de Safet Susic qui était un niveau exceptionnel.
Son niveau sur le terrain, en véritable numéro 10. Susic, c'est vrai, quand on en parle avec les entre guillemets les anciens, tout en étant respectueux, c'est celui qui ressort naturellement. Voilà, parce que par l'empreinte qu'il a marquée. Alors, c'est 344 matchs officiels. Si
j'ai 345, je crois. Oui, c'est ça.
85 buts, 95 passes décisives. C'est record. Voilà.
Exactement. Peut-être que Di Maria va venir le titiller. Dans tous les cas, c'est celui qui est capable de. Mais voilà. Puis c'est une autre époque. C'était moins de matchs par saison. Le Paris Saint-Germain, la Ligue des Champions n'était pas dans sa formule actuelle. Quand Paris a été champion, il a été éliminé. Et c'est pour ça que je parle du fameux soir, parce que Paris est tombé sur Vidéotron, un club tchèque de l'époque. Et ce soir-là, au Parc des Princes, au match aller, Suzy qui n'était pas en forme. Et avec les copains, on s'est dit, ça va être difficile ce soir. Et ça l'avait été, Paris avait été éliminé. Mais il était capable de gestes, d'ouverture, d'une précision, mais exceptionnelle. Il avait le dribble de Maradona, il avait l'œil de Platini, et il avait des passes d'une précision exceptionnelle. On rêvait de voir Suzic associé, par exemple, à Zlatan Ibrahimovic, ça aurait fait un carnage.
Ouais, ça, c'est sûr que ça aurait été plutôt sympa. Clément, Enzo, c'est Suzic, c'est aussi quelqu'un qui a marqué pour vous l'histoire du PSG, que, alors même si vous ne l'avez pas forcément vu jouer, dans l'histoire du club, c'est quelqu'un qui a compté.
Oui, parce que, comme tu l'as si bien dit, en tout cas, personnellement, je ne l'ai pas vu jouer, je pense que Clément non plus. Non, et justement, quand on nous parle autant d'un joueur qu'on n'a pas vu jouer, ça veut quand même dire quelque chose. Et je pense que ça traduit surtout que c'est un joueur qui a marqué toute une génération de supporters, le club, son histoire. Il laisse un héritage fou, notamment au niveau des statistiques. Comme l'a précisé Stéphane, c'est le meilleur passeur encore aujourd'hui du club. Et on nous a toujours décrit Suzic comme d'autres joueurs, hein, comme Dalep, comme des joueurs merveilleux. Autant il y a des joueurs sur lesquels il y a des débats, des doutes, autant Suzic, personnellement, j'ai très peu, voire jamais, je crois, entendu de retours négatifs sur le joueur.
Mmh. Ouais. Faut croire les anciens. On a cette chance, hein, de les avoir tous vus. Et puis, comme de toute façon, c'est pour ça que je pense être sincère dans mes choix, c'est-à-dire que j'ai adoré Mustapha Dalep, puisque ça a été la première star au Parc des Princes. Donc derrière, évidemment, ça fait de Suzic. Et puis après, il y a eu évidemment le charisme de Rai. On y reviendra sûrement, parce que c'était un capitaine, une personnalité, la classe à l'état pur. Il y a eu Ronaldinho par ses gestes exceptionnels. Et puis, il y a eu Zlatan qui, effectivement, a mis des buts fantastiques et a permis au club, lui aussi par sa personnalité, mais aussi par la qualité de son jeu, parce qu'il était à la fois physique et technique, et c'est quelque chose de très rare, surtout quand on est un très grand joueur. Et il a été capable de choses, il a été capable de faire franchir un cap au Paris Saint-Germain. Donc quand on est comme moi et qu'on a aimé le PSG comme je l'aime et je l'ai aimé, évidemment, j'ai apprécié tous ces joueurs, mais il y en a qui allaient bien dégager. Hein. Ce sera sa fête suite.
Ouais, c'est marrant parce qu'en t'entendant, Stéphane, t'as effectivement Suzic qui est le joueur dominant des années 80. On a Dalep qui est peut-être celui des années 70. Oui, à chaque décennie, en tout cas du début de l'histoire du PSG, on a ce joueur dominant.
Voilà, exactement. Et à chaque fois, il y a eu un lien puisque Dalep et Suzic ont joué ensemble. Hein, et ils ont joué ensemble.
Ouais, voilà. Dalep, il est resté jusqu'en 84.
Ils ont fait une saison 83-84. Ensemble, il y a eu des matchs importants, il y a eu des matchs, cette finale de Coupe de France en 83, avec d'un côté José Touré, le Brésilien français, qui met un but exceptionnel, mais quelques minutes après, ça fait de Suzic lui répond par un but encore plus exceptionnel. Il passe toute la défense de Nantes en revue. Il faut situer Nantes, hein. Nantes de c'est le PSG actuel, quoi. Ce serait un Rennais qui aurait passé toute la défense du PSG en revue et qui aurait marqué un but. Donc, Suzic était ça, il est rentré tout de suite dans le cœur des supporters. C'est une époque où il n'y avait que deux joueurs étrangers par équipe. On avait le droit qu'à deux étrangers, entre guillemets. Il n'y avait pas d'histoire d'Harry Bosman ni de communauté européenne. Et donc, c'était des gens qui apportaient un plus à l'équipe. Et quand il a porté le maillot du Paris Saint-Germain, et puis il s'est inscrit sur la durée. Mmh. C'est vrai que probablement techniquement, le plus grand, le plus fort de tous, c'est Ronaldinho. Mais ces deux saisons en pointillé, c'est des gestes exceptionnels. On a vu la suite ce qu'il était capable de faire à Barcelone ou avec l'équipe du Brésil. Mais sur la durée, et en étant constamment bon, je ne vois personne qui puisse arriver, je ne vais pas dire à la cheville, mais à la hauteur de
la hanche.
qui avait d'ailleurs fait une très très belle Coupe du Monde 1990 avec la Yougoslavie et qui était tombé en quart de finale justement face à l'Argentine, je me rappelle encore. Et ça avait été un très très beau match de Susic. Et on avait définitivement compris que non seulement il avait réussi au PSG, mais il aurait pu réussir dans n'importe quel grand club européen. Mm-hmm. À l'époque, les joueurs yougoslaves n'avaient pas le droit de quitter leur pays avant 28 ans, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc voilà, c'était plus compliqué.
Mm-hmm. On va faire un saut en avant désormais. On a parlé des années 70 avec Daleb, des années 80 avec Susic. On va parler des années 90 avec un autre crack, un autre capitaine emblématique, c'est Rai. Clément, que tu as choisi de défendre.
Oui, Rai, l'emblème des années Canal+, du Paris Saint-Germain. Rai qui a eu certes des débuts compliqués à son arrivée en 1993, mais Rai symbolise les titres majeurs du Paris Saint-Germain, notamment cette victoire en finale des Coupes 96. Certes, une finale où il sort au bout d'une dizaine de minutes de jeu, mais il représente ces années-là, ces titres majeurs. Et aussi, voilà, par exemple, il a participé également à la finale de la C2 en 97. Et je reviens justement par rapport au parcours de 96 aussi, c'est que c'est le héros du quart de finale face à Parme. Donc, faut s'imaginer qu'à l'époque, Parme c'est un gros club européen avec Stoïkov, Fabio Cannavaro. Et lui, grâce à deux pénalties, il permet au Paris Saint-Germain de se qualifier. Donc, le PSG qui s'était incliné à Parme 1-0. Et lui, voilà, ça a été le héros de cette remontada de l'époque. Voilà, et lui, il a aussi participé à la finale de la C2 97.
Mmh. Perdu contre le Barça.
Le Barça.
Mais, à Rotterdam, ouais.
Et aussi, par exemple, il a participé à des. Il a été vraiment décisif dans des grands matchs. Je pense notamment à ce quart de finale de Ligue des Champions 1995 face au FC Barcelone. Il propulse le PSG en demi-finale, qui a certes ensuite été éliminé par le Milan AC, mais c'était quelque chose d'exceptionnel à l'époque d'éliminer le Barça. Et il y a aussi évidemment ce top match face au Steaua Bucarest, sûrement peut-être qui fait partie du top 5 des plus grands matchs de l'histoire du Paris Saint-Germain. C'est un Paris Saint-Germain qui s'incline 3-2 à Bucarest, mais à la suite d'une erreur administrative, Paris perd 3-0.
Il doit
remonter 4 buts. Et lui, Rai, au bout d'environ 55 minutes de jeu, marque déjà un triplé et scelle la qualification du PSG en phase de groupe de Ligue des Champions. C'est aussi, Rai a marqué l'histoire aussi par le fait d'avoir brillé dans des matchs couperés comme ça aussi. Mm-hmm. Et comme disait Stéphane aussi, par sa classe exceptionnelle dans le jeu. Notamment, en championnat, il avait marqué des buts exceptionnels.
Le fameux but avec on ne sait pas exactement ce qu'il voulait faire, mais en tous les cas, un but sublime d'un genre de talonnade aérienne qui n'aurait pas déplu à Zlatan Ibrahimovic. Je me rappelle encore, côté Auteuil, tout le Parc des Princes s'était levé effectivement pour ce but exceptionnel. Ce qu'il a eu très fort, Rai, c'est cette participation à 5 demi-finales de Coupe européenne, évidemment. Et c'est surtout, on a retenu bien sûr la victoire face au Rapid de Vienne, mais c'est, comme tu l'as dit très justement, Clément, c'est tous les parcours pour arriver si loin en Coupe d'Europe. Et Paris marchait, entre guillemets, écrasait, battait tous les plus grands d'Europe à l'époque. Le Deportivo, qui était un des meilleurs clubs espagnols. Il y a eu Parme, il y a eu Barcelone, il y a eu le Real, évidemment. On y reviendra avec forcément cette fameuse tête de Combouaré. Et voilà, tous les grands d'Europe se faisaient marcher dessus par le PSG de Rai. Il faut reconnaître qu'effectivement, c'était la classe. Il était très bien entouré aussi. Mais et comme tu l'as dit très justement, le début a été extrêmement difficile.
C'est ça que j'allais te dire. J'allais t'en parler. Cette première année a été compliquée quand même. L'adaptation.
Terrible. Au Parc des Princes, on ne comprenait pas. La rumeur, c'était mais où on est allé le chercher. Par chance, il avait déjà gagné deux Coupes du Monde, deux Coupes intercontinentales avec Sao Paulo. Mais on se demandait comment Paris était allé chercher un joueur comme ça. Et puis d'un coup, après une année compliquée d'adaptation, il est devenu un des rois du Paris Saint-Germain.
Il y a aussi ce lien vraiment avec les supporters, ce lien d'amour avec les supporters, je pense, qui renforce son statut auprès de tous les fans. Et c'est aussi peut-être pour ça qu'il a été élu en octobre dernier meilleur joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain par les journalistes, anciens joueurs et supporters du PSG. Aussi, une dernière chose aussi sur Rai, c'est que on a toute sa période parisienne, c'est qu'il a eu un respect implacable par rapport à l'institution PSG. Il était vraiment très, très fortement lié au PSG. Il n'a pas eu toutes ces déclarations comme d'autres joueurs ont pu le faire par rapport au PSG.
Mmh. Voilà. C'est marrant ce que tu parles de ce lien avec les supporters. Pour ceux qui n'auraient pas vu, je vous conseille d'aller sur YouTube et de regarder tout simplement les adieux de Rai au Parc des Princes, le dernier match au Parc des Princes en mai 98, je crois.
Châteauroux, je crois.
Et c'est fantastique. C'est le stade.
Le tour d'honneur, il est en capitaine Rai et puis.
Il est en larmes complet.
Voilà. Le chant d'honneur qui a d'ailleurs été repris pour la présentation de Neymar en 2017.
Exactement, c'est vrai, tout à fait. Ah non, c'est au niveau de personnalité. D'ailleurs, je pense que c'est pas le hasard si le Paris Saint-Germain l'a choisi. C'est peut-être la seule chose que Suzy a raté avec le Paris Saint-Germain, c'est sa sortie. Et je pense qu'il était très attaché au club. Et à l'époque, on l'a laissé un peu partir. Il est en train de. Thiago Silva est en train de faire des adieux un peu à la Suzy. Il a marqué le club, il a été un capitaine extraordinaire, mais ça s'est mal fini. C'est mal se finir. Et pour Suzy, ça s'est mal fini aussi. Et pendant longtemps, on l'a laissé de côté, on ne l'a pas compté, on ne l'a jamais invité, et ainsi de suite. Les nouveaux dirigeants, parce qu'à Paris, les dirigeants ont changé beaucoup à l'époque Canal et après Canal surtout. Voilà, il n'a pas eu la reconnaissance qu'il méritait, celle qu'il avait gagnée sur le terrain. Et je pense que ça a créé effectivement quelque chose qui fait qu'il a gardé toujours une distance, alors que Rai est un ambassadeur du Paris Saint-Germain. Et ce n'est pas par hasard que le club, pour ses 50 ans, a choisi pas forcément celui qui avait été le plus influent ou le meilleur, mais en tous les cas, celui qui représentait le mieux le Paris Saint-Germain à l'international.
Je rebondis par rapport à ce que tu disais, Adrien, par rapport à ses adieux en 98. Pourtant, c'est une saison où le PSG commence à décliner. On pense à cette défaite 5-1 au Bayern Munich. Le PSG est un petit peu moins bien en championnat. Certes, il remporte la Coupe de France avec une tête de Rai, notamment sur un centre de Patrice Loco. Mais pourtant, c'est un PSG qui est moins bien, mais il est quand même adulé par le Parc des Princes.
Enzo, toi, c'est aussi un joueur qui t'a marqué, Rai. Tu as hésité à le choisir entre Zlatan et Rai. Rai, c'est le Brésil, c'est la classe.
Rai représente peut-être… Enfin, Rai, en tout cas, le premier joueur, quand j'ai commencé à m'intéresser un peu à l'histoire du Paris Saint-Germain, le premier nom qui est sorti, c'est Rai. C'est Rai parce que c'est justement la classe incarnée. C'est un jeu que qu'apprécient les supporters parisiens. C'est beaucoup de délicatesse, de technique, de coups de folie, de magie sur un terrain. Il y a une relation particulière historiquement entre le Brésil et le Paris Saint-Germain et entre les joueurs brésiliens et les supporters du Paris Saint-Germain. Elle est aussi incarnée par Rai, je trouve, et ça se traduit notamment… Avec les adieux qu'il a eus et ces images où on le voit complètement en larmes devant Auteuil Rouge, justement, comme disait Stéphane tout à l'heure. Rai, c'est Capitaine Rai. C'est un joueur dont se souviendront les supporters, dont se souviennent les supporters. Et c'est pareil, quand on transmet la culture du Paris Saint-Germain à des générations qui n'ont pas connu les années 80, les années 90, les années 2000, on parle de Rai. C'est obligatoire. Donc oui, Rai, c'est un joueur, même quand, dans mon cas, on n'a pas vu jouer, est très important. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir, c'est bête, hein, ça peut paraître anecdotique, mais le nombre de vues que peuvent cumuler les vidéos de ses meilleures actions au PSG sur YouTube, alors que voilà, il a joué dans les années 90, bah, ça veut traduire quelque chose. Et puis aussi, Rai, il y a un truc important, Clément l'a mentionné, au-delà de l'institution, c'est un joueur qui s'est un peu impliqué dans la vie parisienne. Il prenait des cours à la faculté, à la Sorbonne, pour... pour essayer vraiment de s'inculquer cette culture française et être vraiment impliqué. D'ailleurs, on le voit, hein, il n'a pas totalement décroché du PSG, Rai. C'est
Il est
vraiment un
attaché,
joueur.
oui. T'as raison, il est attaché à la France. Il visitait le Louvre avec sa femme, avec ses filles. Il a une vraie histoire. Et moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, de l'interviewer. C'est quelqu'un qui est extraordinaire, qui a un charisme extraordinaire, qui est charismatique, ouais, et qui dégage quelque chose, un amour de la France, un amour de Paris, évidemment, et qui, en plus, apportait une dimension un petit peu culturelle que beaucoup de footballeurs n'avaient pas à l'époque, et n'ont toujours pas d'ailleurs. Hein, ils fréquentent plus facilement des endroits qui ne sont pas les musées. Celui qui vient de se blesser récemment, je pense qu'il est allé moins au Louvre que dans certaines boîtes de nuit. Mais bon, c'est à l'époque où elles étaient encore ouvertes.
Cette filiation brésilienne, effectivement, Rai l'a portée à son paroxysme. Derrière, il y en a eu des Brésiliens. C'est aussi Rai qui a donné envie à tous ces Brésiliens de venir. Ronaldinho, bon, je ne vais pas tous les citer, mais Ronaldinho et aujourd'hui Neymar. Ça a placé le club de la capitale sur la carte au Brésil.
Ben oui, parce que là, en plus, le PSG de Rai, c'est aussi celui de Ricardo et de Valdo. Trois joueurs exceptionnels. Mmh. Trois Brésiliens exceptionnels. C'était la colonne vertébrale du PSG en réussite. Un défenseur exceptionnel et le Alain Giresse par rapport à Michel Platini, Valdo était pour Rai ce que Giresse était pour Platini. C'est-à-dire, c'était deux numéros 10, deux joueurs capables de maîtriser le jeu, de l'orienter et pour le plus grand bien du Paris Saint-Germain. Donc, effectivement, ça a ouvert l'arrivée de joueurs brillants venus du Brésil, évidemment, par la suite.
Dans les années 2010, il y a un autre crack qui a marqué de son empreinte le Paris Saint-Germain. C'est un Suédois, un géant suédois, c'est Zlatan Ibrahimovic, et c'est ton choix, Enzo.
C'est mon choix parce que je pense que aucun joueur n'a autant changé la dimension d'un club que Zlatan Ibrahimovic au Paris Saint-Germain. Alors, il ne l'a pas changé tout seul, évidemment. Il y a eu un changement de propriétaire avec l'arrivée de QSI au club. Il n'est d'ailleurs pas arrivé tout de suite. Il est arrivé après une saison sous pavillon QSI. Mais voilà, il a complètement transformé le club. Il lui a donné un rayonnement international que le Paris Saint-Germain n'avait pas forcément avant. Il a marqué par son caractère, par son jeu, évidemment. Hein. C'est quand même un excellentissime attaquant, il ne faut pas l'oublier. Ibra, c'est 156 buts en 180 matchs au PSG. En moins de 4 saisons, je crois que c'était contre Marseille. Oui, c'est même sûr, c'était contre Marseille au Parc des Princes. Il a dépassé le record de Pedro Miguel Pauleta. Ça faisait un peu moins de 4, ça faisait 4 saisons qu'il était au club. Ça faisait 3 saisons, 4 saisons. C'est vraiment un joueur qui a donné un rayonnement international. Et ce n'est pas donné à tout le monde parce qu'il ne suffit pas d'être une star mondiale pour changer l'envergure d'un club. La preuve avec Neymar, par exemple. Neymar est peut-être intrinsèquement un meilleur joueur que Zlatan Ibrahimovic. C'est dans le top 3, les top 5, si on veut éviter les débats. C'est dans le top 5 monde quand même, Neymar. Et pourtant, Neymar, depuis qu'il est au PSG, n'a pas autant d'impact qu'a pu avoir... Alors, pas forcément autant d'impact, j'entends évidemment qu'en Amérique du Sud, le PSG devient de plus en plus populaire depuis la signature de Neymar. Mais le joueur n'a pas eu un impact sportif comparable à celui d'Ibrahimovic entre 2012 et 2016, quand il est arrivé à Paris. Et d'un point de vue de trophée, alors encore une fois, j'entends... tout ne se résume pas à Zlatan Ibrahimovic, il était extrêmement bien entouré, il est avec Thiago Silva, Thiago Motta, enfin, il y avait une vraie structure, un club avec un 11 très performant, avec pour le coup moins de défaillance qu'aujourd'hui à certains postes, mais quand même, 60% des titres du Paris Saint-Germain ont été gagnés post-QSI, donc après 2011. Je pense que s'il y a une continuité aussi aujourd'hui dans le projet QSI, c'est en partie par les bases très solides qui ont été installées par Zlatan Ibrahimovic, évidemment les autres cadres du vestiaire de l'époque, donc c'est-à-dire Thiago Silva, donc qui est parti l'année dernière, Thiago Motta, et aussi des joueurs qui ont pu se développer et prendre de la confiance comme Marco Verratti, ils sont arrivés quasiment en même temps hein, avec Zlatan. Voilà, je pense que c'est un joueur qui, en tout cas sportivement, a fait passer le PSG dans une autre dimension. Maintenant, il y a une chose que je reproche à Zlatan Ibrahimovic, et je pense que tout le monde va à peu près être d'accord là-dessus. Ibra n'a pas eu la classe qu'a pu avoir notamment un rail, ni la proximité avec les supporters, notamment via des déclarations qu'on pourrait juger être embêtantes.
Maladroite.
Maladroite, voilà, maladroite, notamment sur l'histoire du club. Zlatan, il a...
C'est son arrogance, c'est sa personnalité qui est comme ça.
C'est
le
vrai,
personnage.
Moi, je veux prendre sa défense parce que là aussi, et je vais aller dans ton sens, Enzo, hein, pour l'avoir rencontré plusieurs fois en zone mixte au Parc des Princes, c'est un garçon qui dégage quelque chose et qui a une intelligence dans le regard qui fait que tout ce qu'il a pu dire, tout ce qu'il a pu faire, ça n'a jamais été le fruit du hasard ou de la maladresse. Voilà. Je pense que c'est un garçon extrêmement intelligent, assez calculateur. Et chaque chose qu'il a décidé, il l'a décidé avec réflexion. En tout cas, il y a quelque chose qui va dans ton sens, et là, je suis tout à fait d'accord. Le vrai recordman des buts du PSG, c'est Zlatan. Parce que si on fait un rapport nombre de matchs, nombre de saisons, nombre de buts, personne ne lui arrive à la cheville. C'est il inscrit beaucoup plus de buts, et en tous les cas, beaucoup de buts, beaucoup plus rapidement qu'Edinson Cavani. Qui est man aujourd'hui avec 200 buts, évidemment, on ne lui enlèvera pas. Mais en nombre de saisons passées, personne n'a fait mieux que Zlatan. Ça, c'est tout à fait juste.
Et aussi, pour rebondir sur ces déclarations maladroites et le fait, je pense en tout cas, du côté des supporters les plus fervents, on va peut-être même parler des ultras, tout simplement. Ibrahimovic n'a pas une cote folle, mais Ibrahimovic en fait, n'a jamais connu les ultras au parc puisqu'il a signé après le plan Le Pro et il est parti avant le retour du collectif Ultra Paris dans le virage Auteuil. Et c'est pour ça aussi, je pense que, par exemple, quand il y avait des votes sur les réseaux sociaux, notamment, il a une cote de popularité qui peut paraître moins élevée que d'autres joueurs, que Rai, que Pauleta, ou quand même Edinson Cavani, parce que c'est les joueurs qui, sont considérés comme des joueurs qui respectent, entre guillemets, le club. Cavani a pu avoir des moments privilégiés avec les supporters. Cavani, quand il marque son 57e but et que du coup, il dépasse Ibra, il est devant Auteuil, c'est un hasard ou pas, peut-être. Il saute le truc, il va devant Auteuil rouge, il lance son maillot, des scènes de joie avec les supporters. Ça rappelle un petit peu les adieux de Rai. Ibrahimovic n'a absolument pas connu ça au PSG. Et donc, c'est aussi peut-être ce qui peut expliquer, je ne parle pas forcément de ses déclarations maladroites sur l'histoire, mais sur le fait que pour certains, Ibra ne peut pas être jugé comme le meilleur joueur de l'histoire du club parce qu'il lui manque quand même ce truc où, contrairement à Rai, par exemple, où absolument tous les supporters du PSG, et on peut parler de du père de famille qui va en latéral avec ses enfants ou à l'ultra parisien qui est dans un groupe de supporters et qui est abonné à Auteuil, au moins, sur un rail, par exemple, tout le monde est à peu près d'accord. Ce n'est pas le cas sur Ibrahimovic. Et donc, c'est peut-être le petit défaut et c'est le truc qui fait que je trouve qu'il y a débat sur Ibra.
Alors, pour aller dans son sens aussi, sache que moi, en tant que supporter de maintenant de 50 ans du PSG, Ibra est celui qui m'a réconcilié avec mon PSG. Alors, j'explique. Donc, comme tu l'as dit très justement, il est arrivé un an après l'arrivée de QSI. Et j'avoue que cette première année ne m'a pas plu en tant que supporter historique du Paris Saint-Germain. Il y avait trop de choses qui avaient changé par rapport à ce que j'avais pu connaître pendant quasiment 40 ans. Et je ne vais pas dire que je me suis éloigné du PSG, mais je me reconnaissais moins dans ce nouveau PSG, ce PSG QCI, pour moi, qui avait connu donc, Mustapha Dalem, qui avait connu Suzy, qui avait connu Rai. Et tout changeait. Je crois que c'est même l'année où le camp des loges a changé de nom pour s'appeler Oredo et ainsi de suite. Donc, moi, je perdais, en tant qu'ancien, je perdais tout le fil qui me reliait au Paris Saint-Germain. Et c'est Ibra qui m'a ramené sur le droit chemin par la qualité de son jeu, par la qualité de ses buts, par sa personnalité, même si je pense qu'effectivement, il aurait pu, mais c'était de la provoque. C'était du deuxième, du troisième degré, il fallait le comprendre comme ça, quand il a dit « Maintenant, Paris, une histoire avec moi, depuis l'arrivée de… » Voilà, mais franchement, c'est quand même celui qui m'a remis sur le droit chemin du Paris Saint-Germain, et ça, je lui en serai reconnaissant très longtemps.
Et c'est la première c'est la première vraie star qui arrive au PSG depuis Ronaldinho, sachant que Ronaldinho explose à Paris, mais Ronaldinho, évidemment, prend toute sa dimension… explose vraiment à Barcelone, c'est là qu'il prend le ballon d'or notamment, quelques années après son départ du PSG. Et donc c'est pour rebondir sur le côté, voilà, Ibra m'a un peu réconcilié avec le PSG, c'est aussi parce que la première année de QSI, bah, le PSG n'est pas champion. C'est Montpellier qui est champion. Mmh. C'est-à-dire que QSI arrive au club. Donc forcément, les supporters ont une attente au vu des discours, des premières conférences de presse et des objectifs annoncés. Et le PSG, alors malgré un recrutement qui évidemment n'est pas comparable avec celui du deuxième mercato estival QSI, où là, Ibra arrive, machin. Mais le premier quand même, avec les arrivées de Gamero, de Menez, de Pastore, de Sirigu, de Alex et Mota à la mi-saison, n'arrive pas à être champion. En plus, c'est Montpellier.
Alors qu'ils sont leaders.
Alors qu'ils sont leaders à la mi-saison avec Camboire. Camboire part, Ancelotti arrive et le PSG n'est pas champion. Donc, il y a déjà une première déception après un an de projet. Et Ibra débarque en juillet, je crois, avec des scènes autour du Trocadéro, je crois, ou c'était à la Tour Eiffel, ou c'est autre.
Hein, Trocadéro, oui.
Incroyable. Et donc, en plus d'avoir fait changer la dimension du club, je trouve qu'il a... Ça, c'est juste ce que tu dis, Stéphane, c'est-à-dire qu'il a redonné un peu un coup de boost aussi au Paris Saint-Germain.
Et c'est aussi, Zlatan en parle beaucoup là, de lui en dehors du terrain, ce qu'il a apporté, mais sur le terrain, c'est aussi des buts fantastiques, c'est aussi des buts très spectaculaires, Zlatan.
J'ai revu récemment une flopée de buts d'Ibra, mais c'est super, c'est la vitesse, c'est la puissance, c'est la technique. C'est très rare. Il y a des joueurs qui sont techniques, il y a des joueurs qui sont puissants, il y a des joueurs qui sont physiques. Et lui, il avait tout ça. Il avait tout ça. Il avait une technique pour un garçon de près de 2 mètres exceptionnelle.
Je suis complètement d'accord.
Il a une détente exceptionnelle. Ce qu'il fait aujourd'hui encore à Milan.
Et c'est moi, ça.
Il va les amener au Scudetto. Hein. C'est tout simplement exceptionnel. On oublie qu'entre-temps, après avoir quitté le PSG, il est allé se balader aux États-Unis, il est repassé par Manchester. Ouais.
Et il s'est blessé.
Il va être champion probablement. Et c'est quand on regarde les matchs du Milan et quand on voit l'influence qu'il a encore aujourd'hui.
Après de 40 ans.
Il peut même avoir peut-être quelques regrets qu'il soit parti si tôt du Paris Saint-Germain. Parce qu'il y avait des belles choses à faire avec lui et avec ceux qui sont là actuellement.
Il a aussi marqué l'histoire des duels OM-PSG, avec notamment ce doublé en 2012 au Vélodrome, avec ce high kick suivi de ce coup franc de très très loin.
Pour son record. Pour son premier, pardon.
Pour son premier classico, oui.
Non, parce que.
Très spectaculaire, hein.
Je voulais rebondir évidemment. Aussi parce que son record dans l'histoire des OM-PSG, qui sont quand même très importants pour dans l'histoire du club et pour les supporters parisiens, le record de Pauleta, il le bat au Parc contre l'OM. Bon, sur un double penalty, d'ailleurs un triple parce qu'il est retiré, mais il le bat là. Donc c'est vrai qu'il y a aussi, Ibra a aussi un rapport très particulier avec les classiques contre l'OM.
Ce que je retiens aussi d'Ibra, c'est qu'il a par son charisme, il a fait progresser des joueurs qui peut-être n'auraient pas atteint ce niveau-là. Je pense notamment à Blaise Matuidi qui a vraiment explosé avec l'arrivée de Zlatan Ibrahimovic. Il a fait une saison correcte en 2011-2012, Blaise Matuidi. Mais par exemple, un joueur comme lui a vraiment progressé avec l'arrivée du Suédois, je trouve, au Paris Saint-Germain.
Je suis d'accord. Ça donne encore plus, je trouve, de poids au statut de leader qu'avait Ibrahimovic quand il jouait au Paris Saint-Germain. Et je suis toujours dans la comparaison avec Neymar, sans enlever le joueur merveilleux qu'est Neymar. Hein, c'est absolument pas le débat. Mais voilà, je pense que Ibra, par exemple, ce que tu disais avec Blaise Matuidi, ça, par exemple, Neymar ne peut pas l'avoir. Et c'est pour ça que je dis que c'est pas donné à tous les meilleurs joueurs du monde de pouvoir avoir l'influence sur une équipe et sur un club comme l'a eu Ibra. Et c'est ce qui lui donne encore plus, je trouve, de poids à ce au statut qu'il a, au statut de légende du club qu'il a.
Ah, j'ai envie de, si je voulais faire un peu de provoque, je me poserai une question. Est-ce que vous pensez que Neymar sera toujours là à 39 ans? Moi, j'ai quasiment la réponse en posant la question.
Voilà. Oui,
c'est
clair. Ibra, c'est un exceptionnel professionnel, un remarquable. Et c'est vrai qu'il a eu de l'influence sur les autres. Et c'est vrai qu'il a apporté par sa personnalité, par sa capacité à travailler. Moi, je le compare un peu à Cristiano Ronaldo. C'est des joueurs qui durent, mais on ne dure pas par hasard. C'est qu'on a une hygiène de vie, c'est qu'on a une façon d'aborder le métier de footballeur exceptionnel. Et il est en train de le montrer et d'en récolter les fruits. Et quand Cristiano Ronaldo est parti à la Juve, tout le monde a rigolé en disant il part à la retraite ou quasiment en quittant le Grand Real. Et on voit ce qu'il est en train de faire. Vous regardez à chaque fois les tableaux d'affichage de la Juve, Il y a quasiment une fois sur deux, quand ce n'est pas à chaque match, écrit Cristiano Ronaldo une fois, deux fois, trois fois. Et voilà, c'est quelque chose qui fait que ces joueurs-là sont exceptionnels et que quelque part, Zlatan a sa place aussi parmi les plus grands et parmi les légendes du PSG, évidemment.
Mmh. Un qu'on a évoqué furtivement, notamment Enzo, quand tu as parlé d'Ibra qui avait dépassé le record d'un autre attaquant fantastique du club de la capitale, c'est Paoletta. Paoletta, c'est peut-être lui le symbole des années 2000. Il a joué 5 saisons au Paris Saint-Germain. Ouais. Il a été le meilleur buteur avec 109 buts. Dans le cœur des supporters et dans le jeu, c'est quand même un joueur qui a compté.
Alors, je veux bien prendre la parole en premier.
Vas-y, Stéphane.
Je vais peut-être vous décevoir, mais pour moi, Paoletta, c'est les années loose pour le Paris Saint-Germain.
Je suis d'accord.
Ça lui enlève aucun talent, évidemment. C'est un formidable buteur. Mais je ne peux pas l'associer à l'histoire positive du Paris Saint-Germain. Parce que malheureusement, on ne va pas reparler de cette époque-là, mais c'était des années compliquées pour le PSG. Le PSG s'est retrouvé à se battre pour ne pas descendre en deuxième division, à avoir fréquenté pendant quelques années 5 demi-finales de Coupe européenne. Et donc, malgré tout le talent qu'il a eu, malgré le nombre de buts, on vient de le dire, très nombreux, je pense qu'il n'a eu aucune influence positive sur le Paris Saint-Germain, à part mettre des buts dans des années compliquées et être peut-être le seul rayon de soleil d'une époque très nuageuse. Mmh.
C'est la domination lyonnaise, hein, pour rappeler les années 2000.
Oui, puis c'est les sales années du PSG.
Son seul palmarès, c'est deux Coupes de France, quand même, une Coupe de la Ligue. Alors, c'est sûr que c'est très maigre par rapport à ce qu'on peut voir aujourd'hui. Mais oui.
Mais je l'appréciais comme buteur à Bordeaux. Il était excellent. Et quand il est arrivé au PSG, je me suis dit, c'est génial. Voilà, c'est bon pour Paris. Et puis, l'histoire s'est écrite. Et elle s'est écrite sans le Paris Saint-Germain, c'était top.
Pedro Miguel Paoletta n'a pas le même leadership qu'un Zlatan Ibrahimovic, par exemple. Pedro Miguel Paoletta, c'est surtout un buteur, un fantastique buteur. Mais la question, c'est est-ce qu'il aurait peut-être pu battre le record absolu s'il avait joué dans l'équipe actuelle du PSG? Je pense qu'il aurait pu…
C'est une évidence. Mais si Susik avait joué dans l'équipe actuelle du PSG, on ne se poserait même pas la question. Il n'y aurait pas eu de débat et il n'y aurait pas eu de podcast.
C'est ça. Non, mais sur Paoletta, ce qui est intéressant, c'est ce qu'a un peu conclu Stéphane sur lui, c'est en fait il a été adoré. Alors, au-delà évidemment des buts, hein, parce que c'est un excellent buteur, ça y a pas de doute là-dessus. Mais il a été le seul rayon de soleil dans une période très nuageuse. Et en fait, je pense que toute une génération de supporters, notamment ceux qui sont nés dans la fin des années 90 et donc qui ont grandi avec Paoletta, en fait, ne pouvaient se raccrocher qu'à Paoletta. Quand on regarde un peu les équipes parisiennes post-Ronaldinho, hein, dans les années 2000, donc c'est-à-dire, on va dire, en grosso modo, entre 2004 et 2008-2009 avec le départ de Paoletta en 2008, la star, c'est Paoletta. Et quand je dis la star, c'est parce que c'est la star à l'époque, au vu de l'effectif parisien de l'époque. Mais si on prend un peu de recul maintenant et qu'on compare Paoletta à un Zlatan Ibrahimovic, par exemple, c'est pas la même cour, malheureusement, hein. Et tout Paoletta qui soit, hein, encore une fois.
Moi, l'image que j'ai de Paoletta de cette époque, c'est Paris qui perd 3-2 et Paoletta qui met les deux buts du PSG. Quoi.
Voilà, justement, on parlait de Classico aussi, il a marqué des buts aussi marquants dans l'histoire du PSG, notamment ce doublé en 2004 face à Barthez, notamment quand tout à l'heure Enzo parlait des buts sur YouTube. C'est souvent des buts qu'on revoit dans. Vraiment, assez souvent, c'est ce doublé de Paoletta face à l'OM et Barthez.
C'est pour ça qu'on ne remet surtout pas en question son talent, son buteur. Enzo l'a dit, et il a raison. C'était un excellent buteur et on peut même regretter qu'il ait fréquenté le PSG à cette époque. Donc ça, on ne remet pas en question, mais c'est vrai qu'il a été desservi par la période où il a joué au Paris Saint-Germain. C'est vrai qu'il était entouré de joueurs qui s'appelaient Martel et quelques autres. Évidemment, c'est mieux de jouer avec Di Maria, Mbappé et Neymar. Ça sert plus à briller quand même que ceux qu'il avait autour de lui à l'époque. Et ça, malheureusement, c'est le choix des générations.
Et rapidement, juste pour conclure sur Pauleta et sur quand même, il a quand même marqué les gens. Tout à l'heure, Clément, pour défendre Rai, tu disais que Rai avait été élu meilleur joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain dans le vote qui a été fait à l'occasion des 50 ans du club, donc par des anciens joueurs, des journalistes et des supporters. Le plus beau but, c'est le lob de Pauleta face à Barthez. Donc, preuve que même si, évidemment, on ne peut pas le mettre, je pense, dans la même cour que les joueurs qu'on défend depuis tout à l'heure, il a quand même marqué, les esprits.
L'histoire du PSG.
Oui, c'est vrai, parce que même toi, Stéphane, tu évoquais tout à l'heure un Ronaldinho qui n'a fait que deux saisons, qui n'a pas rien gagné, mais qui a quand même marqué d'une certaine manière le club. Alors, effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit, bon, il y a un tel palmarès sur les 10 dernières années que, effectivement, les joueurs qui sont là depuis 7, 8, 9 ans ont une place à part. Mais ces joueurs qui étaient là par le passé, c'était un autre PSG, c'était une autre époque, et ils ont marqué à leur manière.
Bien sûr, bien sûr. Alors, Ronaldinho, c'est un peu, à son époque, c'est un peu le Neymar de l'époque. Hein. Quand on voit comment il va gagner la Coupe du Monde avec le Brésil, avec deux buts de Ronaldinho, deux buts de Ronaldo, l'autre, le vrai, je ne sais plus, mais en tous les cas, un génie du football aussi. Quand il arrive à Paris, on n'a pas tous les supporters, mais même les journalistes, on comprend que là, Paris a tapé dans la catégorie haute. C'est le premier très, très, très grand joueur qui arrive avec une renommée déjà. Et il va le prouver, il va gagner un ballon d'or, il va réussir merveilleusement avec Barcelone, il va être le premier coéquipier de choc de Messi. Ce garçon, techniquement, était exceptionnel. Je ne sais même pas si ce n'est pas le plus doué de tous.
J'allais le dire.
Peut-être plus loin encore, balle au pied, je vois très peu de joueurs, peut-être Diego Maradona et Pelé, mais je vois très peu de joueurs capables de faire avec un ballon ce que faisait Ronaldinho. C'est un joueur exceptionnel.
Je pense que si la question de l'émission, ça avait été qui est le meilleur joueur à avoir joué au PSG et pas le meilleur joueur de l'histoire du PSG, oui. Là, clairement, à part peut-être Neymar, qui peut vraiment concurrencer Ronaldinho dans ce secteur-là? Honnêtement, je ne sais pas.
Alors, un qu'on n'a pas nommé, mais qui était extrêmement fort et qui lui aussi a eu un ballon d'or, c'est Georges Weah.
Oui, c'est Georges Weah.
Georges Weah, que j'ai eu la chance de voir jouer, qui a mis un but exceptionnel face au Bayern en Coupe d'Europe, était exceptionnel aussi. Mais là aussi, autre époque, en plus, le ballon d'or, pour la première fois, s'ouvrait aux joueurs africains. Donc, il a été le premier à gagner, si j'ai bonne mémoire, ça doit être en 1994. Effectivement, lui était très fort aussi, très, très fort. Et c'était dans la lignée de ceux qu'on a nommés ce soir, évidemment. Il y avait du Safet Souzi, il y avait du Ibra et il y avait du Rai en Georges Weah, qui était à la fois un exceptionnel buteur, mais aussi quelqu'un capable de partir de loin et de tenir la distance et de faire des gestes exceptionnels aussi.
Il y a un secteur qu'on évoque rarement dans ce genre de classement, c'est derrière, c'est les portiers, c'est les gardiens. Le PSG a aussi connu de très grands gardiens, on pense à Bernard Lama.
Joël Batz
également. Il y a aussi une lignée de grands gardiens au Paris Saint-Germain qui méritent d'être cités quand même.
Bien sûr, au début, le Paris Saint-Germain n'a eu que des bons gardiens. C'est-à-dire qu'il y a eu Pantélic, alors là, ça ne vous parlera pas. C'est la grande école de l'Étoile Rouge à l'époque qui formait les meilleurs gardiens du monde, donc qui a été le premier grand gardien du PSG. Après, a suivi Dominique Baratelli, qui était le gardien de l'équipe de France et le meilleur gardien français. Puis Joël Batz, le premier titre de champion. L'époque Suzy, et Bernard Lama. Là, après, il y a une petite coupure avec quelques erreurs de casting parfois. Et on fait un grand bond. Et finalement, pour moi, le grand bond, il nous ramène à Keylor Navas, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il va s'inscrire. Il le montre déjà. Il est décisif, beaucoup de fois. Il fait gagner des points au PSG. Il permet au PSG de se qualifier pour des tours de Coupe d'Europe. Donc, je pense que là, j'aurais aimé qu'il vienne à Paris 2-3 années plus tôt pour durer plus longtemps encore. On sait que les gardiens peuvent jouer longtemps. Donc, j'espère qu'il va encore poursuivre au moins pendant 4 ans son passage à Paris. En tous les cas, effectivement, il s'inscrit dans cette lignée-là.
C'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de Rai, Georges Weah, Mais c'est vrai qu'il y a, enfin, il y a Bernard Lama qui représente aussi ces années 90. C'est bon sur sa ligne, son charisme. Et quand il est parti en 97, donc il a été remplacé par Christophe Provost. On parlait du déclin tout à l'heure du PSG lors de la saison 97-98. C'est aussi à cause du départ de Bernard Lama à West Ham. Et le PSG avait perdu un leader aussi dans son vestiaire.
Ouais, ça juste. Ouais. Après, il y a eu quelques gardiens, on ne va pas dire corrects, mais il y a eu Grégory Coupet, il y a eu d'autres encore. Sirigu,
j'allais dire, n'était pas mauvais, Sirigu.
Oui, il était très bien. Après, effectivement, après, il y a eu le problème de la concurrence, où il n'y a jamais eu au PSG un 1 et un 2. Il y a eu...
C'est fou, ça.
Et c'était le début de la fin avec Kevin Trapp, et chacun parlait de Trapp. Et chaque année, Areola, une fois je te vois, une fois je ne te vois pas. Je pense que Areola, c'est un gâchis quelque part, parce que s'il avait été mis dans les bonnes conditions, il avait montré un vrai talent, il avait montré que voilà. Mais on n'a pas été capable, ou en tous les cas, ses entraîneurs n'ont pas été capables de faire des choix du numéro 1 et du numéro 2. Et au poste de gardien, c'est très vite problématique. Voilà. C'est quand même l'essentiel.
Avant de conclure, ce serait dommage de ne pas parler de quelques-uns des joueurs de ces dernières années. On a évoqué Neymar, Mbappé, c'est quand même des cracks, des phénomènes. On parle de montants à plusieurs millions, on parle de joueurs qui inscrivent des dizaines de buts tous les ans. Ce ne sont pas des joueurs qui sont aujourd'hui les meilleurs joueurs de l'histoire du PSG, mais s'il reste 2, 3, 4 ans, est-ce qu'il pourrait le devenir ?
Kylian Mbappé, c'est le prototype même de celui qui peut le devenir. Neymar aussi, bon, Neymar là va rater encore une fois les finales de la Ligue des Champions. Alors c'est vrai que rater 3 fois sur 4, ça commence à faire beaucoup, mais si j'étais le conseiller de Kylian Mbappé, il n'a que 22 ans, il vient de les avoir. Je conseillerais de rester encore 3-4 ans au Paris Saint-Germain. Après, il n'aura finalement que 25 ou 26 ans. Et il sera temps d'aller au Real, au Barça, à Liverpool ou ailleurs. Il a une belle histoire à écrire avec Paris. Aujourd'hui, Paris s'est donné les moyens de faire des belles choses. Après, est-ce que cet entraîneur-là, le suivant, y arrivera ? On ne sait pas. Mais en tous les cas, il y a le beau matériel, il y a des gens de qualité. Lui-même est de qualité, il a déjà inscrit beaucoup, beaucoup de buts. Je pense que en 4 saisons, il dépassera facilement et Paoletta et Ibra et Cavani. Donc, il peut s'inscrire dans la durée. Après, on sait maintenant hein, ce qui fera la différence, évidemment, c'est la Ligue des Champions.
Ce que j'allais dire.
Et ça, il a la possibilité de le faire avec Paris, mais oui, il a le potentiel pour ça.
Non, mais c'est clair. Le PSG de QSI a finalement un objectif ultime, c'est de soulever la Ligue des Champions. Si ou Neymar ou Mbappé, ou les deux, hein, mais je ne sais pas, on parle de ces deux joueurs-là, mais si jamais un de ces... Enfin, si en fin août dernier, le PSG, par exemple, avait remporté la Ligue des Champions avec un grand match de l'un des deux joueurs, la question se serait posée et ça aurait été parfaitement légitime de dire, à l'époque, hein, que ou Neymar ou Mbappé... Peut se positionner comme étant l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du PSG parce que c'est quand même le trophée ultime, la Ligue des Champions. Tu rentres définitivement dans la cour des grands au niveau en termes de palmarès, j'entends.
Ça me fait penser à un dernier point sur le palmarès individuel aussi. Le seul joueur qui a obtenu le Ballon d'Or et qui n'était plus au PSG mais qui avait fait une demi-saison au PSG, c'est Georges Weah. Qui a commencé au PSG la saison, qui l'a terminé au Milan et qui a obtenu le Ballon d'Or à la fin de cette saison-là.
C'est pour ça qu'il ne fallait pas faire cette émission sans parler de lui.
Évidemment.
Et il y a Mustapha Dalleb, hein, j'en ai parlé, oui. Parce que là, on monte encore à plus loin, mais très franchement, lui aussi était extrêmement doué. C'est celui qui est celui de la première période, de la découverte de la première division pour le Paris Saint-Germain. Mais c'était un sacré technicien aussi et un pied gauche exceptionnel parce que c'est un des points communs de tous ceux dont on a parlé. C'est d'avoir un pied gauche souvent exceptionnel. C'est ce qui fait la différence. C'est bien d'avoir un pied droit, mais sans avoir un pied gauche et d'avoir les deux, évidemment.
Merci messieurs d'avoir participé à ce podcast. Je vous rappelle qu'il est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner, comme ça vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Merci messieurs d'avoir participé à ce podcast et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut.
Bonne fin de journée.
Salut.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.